Les tripatouilleurs.
C'est quoi ça?
On connaît pas.
Y a qu'à demander.
L'émission Tripop d'un tempo électronica.
Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue.
Sur scène.
Bonjour Simon, French 79. Bah merci déjà de nous recevoir à Nantes au Stéréolux. Je suis avec Simus des Tripatouilleurs. Et bon, on te laisse peut-être dire un petit mot pour démarrer avant de commencer la somme de questions qu'on a à te poser.
Bah écoute, je suis très content d'être ici à Nantes. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et puis de découvrir cette émission, ça a l'air cool de ce que tu m'en as dit. Donc voilà, je pense que ce soir, ça va être aussi très cool. Donc non, très content d'être ici.
Ravi évidemment de te recevoir sur les Tripatouilleurs. On a préparé pas mal de questions, on a pas mal planché aussi le sujet. Je t'avoue que t'as une vie quand même artistique assez dense. Donc voilà, on va essayer de passer un peu tout ça en revue. Et puis on va être cherché sur quelques sujets aussi un peu plus du loisir, des passions. Voilà, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Donc,
On s'est pas mal renseigné, vu que tu tournes beaucoup. Voilà, il y a pas mal d'interviews, donc ça c'est cool, c'est vrai que souvent on interview des artistes un peu du coin de Nantes, donc on a moins d'infos. Là on a pu plancher le sujet, on a eu l'info de l'interview, je crois que c'est la fin de semaine dernière, donc on a passé la semaine à potasser un peu le sujet. Moi je te suis depuis un sacré bout de temps, donc c'est cool. Moi c'est pas 79, c'est 83. donc voilà, et du coup moi je vais commencer, on voulait faire un petit récap de tu avais commencé par Nasser Youth Band avec un certain Kid Francescoli qui est passé sur au Stéréolux là il y a peut-être un mois. C'était de faire un petit récap sur ta
79, si tu pouvais nous en parler.
Effectivement, avant French 79, évidemment, il y a plein de choses. J'ai commencé la musique à 6 ans, donc il s'est passé plein de choses. Mais c'est vrai que le premier groupe qui m'a permis d'être professionnel, on va dire, d'en vivre et de faire que ça, c'est Nasser, donc où j'étais à la guitare, au synthé, j'étais à la composition aussi. Donc c'était plutôt un groupe électro-rock, on va dire. On avait déjà joué d'ailleurs une paire de fois à Nantes, il me semble. Enfin, c'est même sûr. Je crois qu'on avait même fait l'ouverture de cette salle.
Quelle autre salle, par exemple ?
À Nantes ?
Ouais, à Nantes.
À Nantes, on avait joué le Ferrailleur, ouais, c'est possible. Ouais, voilà, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à Nantes
Avant le Stéréolux, il y a eu l'Olympique.
Non, alors ça me dit rien du tout. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, la salle, ça me dit rien. Après, il me semble qu'il y a un club pas loin, non? Ou Warehouse, ou un truc comme ça.
Warehouse,
il me semble que j'avais fait ça une fois. Nasser, puis Husbands, donc avec Kid Francescoli au Tiger Mountain, c'était notre projet pop, on va dire. On a eu l'occasion de faire qu'un album, j'espère qu'on en refera un deuxième, un de ces jours. Après, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tous les trois des programmes un peu, des plannings chargés, on va dire. Mais on s'interdit pas du tout de refaire un album, ni avec Nasser, ni avec Husbands d'ailleurs, il n'y a aucun de ces groupes qui est fini. Non, pas du tout. Ouais.
Là, vraiment en solo. Il y a toujours des liens qui se font amicaux, déjà, je pense.
Bien sûr, non. Après, c'est juste une histoire de temps, une histoire de conjoncture, on va dire. Le projet French, il fonctionne bien. Puis ça me fait aussi plaisir. Voilà, le fait de passer de groupe à solo, c'est quand même assez cool. Ce qui est cool, c'est que ça change. Pour l'instant, je continue un peu à faire du French. Tout en voyant tout le temps Kid, c'est moi qui produis ses albums. On a nos studios l'un à côté de l'autre, donc on se voit tout le temps. Tout ça, ça reste des amis avec qui on se voit souvent à Marseille, parce qu'on est tous de Marseille. Et ce qui s'est passé avant French, en gros, il y a eu plein d'autres choses, mais bon, je vais pas en parler pendant des heures, sinon c'est parti.
On va évidemment se parler de French et puis bien sûr de ton dernier album, c'est une évidence. Concert au Stéréolux ce soir, tu viens de nous le dire, donc tu avais déjà fait une date ici. T'as eu le temps de voir comment la ville a évolué aussi, parce que c'est vrai que nous on est très attachés à notre ville, toi aussi t'as l'air d'être très attaché à Marseille, t'en parles souvent dans tes interviews. T'as eu le temps de te balader, d'aller faire un peu les grands spots quand même connus ou...
Ici à Nantes ?
Ouais.
Ouais quand même, après c'est une ville que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a un petit côté marseillais aussi, une espèce de... c'est assez cosmopolite comme ville, c'est un voilà, il y a plein de gens différents, voilà. Bon alors après ça c'est sûr que vous en termes culturels vous êtes quand même mieux placés que nous. Nous à Marseille ça a toujours été un peu une galère, mais ça va de mieux en mieux quand même, donc ça c'est quand même plutôt positif. On sent qu'on est sur la pente ascendante clairement quoi, c'est-à-dire que de toute façon on est parti de si bas que bon voilà. Mais du coup, c'est ça qui est agréable ici. Vous avez quand même des choses qui sont quand même assez avancées depuis longtemps avec la culture. Donc, vous avez bien de la chance et j'espère que nous, à Marseille, on prendra bien exemple sur vous.
Puisqu'on se parle un petit peu de la scène marseillaise, nous, on a des artistes qu'on suit beaucoup, notamment La Fine Équipe.
Ouais, c'est ça, la belle. Donc, ils sont entre Paris et Marseille. Et moi, j'ai aussi trouvé une info. Alors. De Massilia Sound System. Est-ce que t'aurais fait un truc avec eux ou j'ai vu ça, mais un projet avec Kid Francescoli et puis non, c'est.
Alors c'est un peu. C'est, déjà, ça remonte à longtemps, ça, mais c'est vrai qu'au début, au tout début, quand je suis arrivé à Marseille, j'étais dans leur studio. Donc j'ai travaillé avec Gary, un des chanteurs de Massilia. J'ai fait quelques morceaux pour son groupe, son projet solo qui s'appelle White Star. C'était mes premiers pas dans la musique marseillaise, on va dire, parce que c'était des groupes qui font un peu de tout et ils s'étaient intéressés à la musique électronique à un moment donné. Donc, ouais, bien sûr. Donc, non, voilà, j'ai travaillé avec eux. Après, dire que j'ai fait des choses avec Massilia, c'est pas vraiment. Mais voilà, je les connais bien, très bien tous. Et donc, j'ai fait quelque chose avec eux. Après, La Fine Équipe, moi, je connais très bien Hugo. Donc, oui, on se voit souvent, même quand on est à Paris, on se croise, on se connaît tous un petit peu, de toute façon, dans ce milieu-là. Donc, ouais. Non, je m'entends bien avec tous les membres de La Fine Équipe. Ouais.
La Fine Équipe, tu les avais en interview, toi?
Ouais, on les avait interviewés l'année dernière, je crois. Ils étaient passés au Warehouse aussi, à côté, là, pour les Nova Days Club.
Ouais. Donc, Nowadays Club.
Ouais, je reconnaissais pas le truc. On va faire un petit rétro, un petit peu rétrospectif du coup de ton parcours. Alors bon, on va passer sur les grandes périodes, hein, on va faire comme ça. Donc premier album Olympique en 2016, Joshua en 2019. Avant de parler de ce qui s'est passé ensuite, il y a quand même la période du Covid. Alors est-ce que ça a pour toi été bénéfique, bien vécu, mal vécu? Est-ce que c'était une période de tranquillité de production? Enfin, c'est vrai que c'est une question où on se dit, est-ce que ça a ralenti quelque chose ou ça a accéléré au contraire plutôt ta créativité, envie de livrer quelque chose?
Non, moi pour moi ça n'a pas été une bonne. Enfin en tout cas c'était une bonne période avec le temps, tout ça, parce que j'ai fait plein d'autres choses, mais en termes musical ça n'a pas été bien. Je me suis. Au début, je me suis dit super, je vais pouvoir m'enfermer dans le studio et faire des choses et tout. Puis en fait, je me suis aperçu qu'il faut quand même un peu vivre des choses un peu palpitantes pour. Enfin, en tout cas, me concernant, j'ai besoin de vivre un peu des choses en dehors de la musique, dans. Voilà, des sports, des choses comme ça. J'ai besoin de vivre un peu, de sentir des sensations pour pouvoir ensuite un peu m'exprimer au studio. Ça, j'en étais pas trop conscient avant le Covid. Pour moi, ça passait. Par le travail, le machin, le truc, et quand même je m'en suis aperçu à ce moment-là où j'ai commencé à composer, puis en fait je faisais que des trucs nuls, j'ai tout jeté, c'était vraiment pas bien parce que j'étais pas inspiré. Forcément tu croises personne ou t'es tout le temps avec la même personne chez toi, il y avait rien de palpitant dans cette période-là quoi. Après maintenant 3 ans après, on se dit ah quand même le confinement, on aura pu faire des voilà, j'ai des regrets hein, comme tout le monde hein. Mais
dans une situation un peu particulière.
Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'était vraiment pas une période inspirante, en tout cas pour moi. Donc, j'ai réussi à faire des trucs un peu techniques. Il fallait que je fasse du tri dans mes dossiers, des choses comme ça. Mais
tu te retrouves dans des albums derrière que t'as pu produire.
Non, je crois pas. Franchement, je crois que j'ai tout jeté. Ouais.
Ok. T'as besoin d'être un peu en extérieur pour.
Ouais, c'est ça. J'ai besoin de m'inspirer, d'avoir vécu des choses, d'avoir fait des rencontres avec des gens, d'avoir fait des trucs comme ça. Pour ensuite qu'il y ait des trucs qui sortent sans le savoir. Alors ça, je sais pas trop comment on peut l'expliquer ou pas, mais c'est vrai, quand on se fait un peu chier dans la vie, si on se retrouve devant un clavier, ben on se fait chier aussi. Donc bon, voilà, je trouve que
même
ça...
Plus d'aller voir des concerts, voir des artistes...
Voilà, voir forcément. Des concerts, être dehors, rencontrer des gens, voyager, voilà, faire des choses comme ça, c'est des choses qui m'inspirent.
C'est vrai que nous, dans notre émission, sur le trip-hop, les artistes, ils aiment bien quand même rester bien enfermés. Ils sont pas trop non plus live, concert. Ils aiment bien rester dans leur petite chambre. Le beatmaking, quoi, c'est ouais, plus ça.
Après, moi, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire que je reste enfermé dans mon studio aussi quand je fais. Mais pour rester enfermé pendant 3 jours non-stop dans le studio pour composer quelque chose et tout... il faut, pour moi, j'ai besoin d'avoir vécu un peu quelque chose avant, quoi. Voilà, parce que si t'es déjà enfermé chez toi et qu'ensuite tu vas te réenfermer, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort, quoi.
Quand on continue à remonter un petit peu la chronologie de ce que t'as produit, t'as fait aussi un album un peu particulier, Lou Reed. On retrouve aussi aujourd'hui des compositions où tu chantes. Donc, la question c'est, est-ce que c'est un souhait pour toi d'aller vers quelque chose où tu vas encore plus mettre ta voix devant? Est-ce que c'est juste pour toi un moyen d'exprimer encore une fois quelque chose de nouveau?
Bah, disons que j'aime bien chanter. Après, je chantais aussi beaucoup dans bands, tout ça. Mais j'essaie d'éviter de le faire trop quand même, parce que à la base quand même, ce projet-là, c'était vraiment de faire de la musique électronique. Donc, qui est quand même plus souvent de la musique instrumentale. Je le fais parce que j'ai envie, parce que je considère un peu la voix comme un synthé, hein, un lead mélodique comme un autre. Mais du coup, il y a forcément des choses avec la voix qui viennent et tout. Mais ce que je veux pas, c'est devenir trop pop, trop faire du couplet, refrain et tout ça pour... j'aime bien quand même garder la base du projet. Il faut que ce soit un projet pour moi de musique électronique, donc quand même instrumental. Donc c'est vrai que sur ce dernier album, ma voix est un petit peu plus présente, je pense, que sur les deux premiers. Mais je chante quoi sur 2-3 morceaux? Bon, voilà, je pense que ça suffit.
Et en plus, ton set en live, t'as quand même beaucoup de claviers, d'instruments.
Ouais, alors je chante aussi sur scène, ouais. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie de chanter à chaque titre. Je suis pas un grand chanteur non plus, quoi.
Voilà, ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que tu aurais, sur des prochains lives, invité des artistes? Là, par exemple, sur le dernier album, il y a Prudence, ouais. Chanteuse de Zodo.
Bah, après, ça, c'est aussi toujours pareil. C'est toujours un peu compliqué de faire des featuring et tout sur les albums. C'est cool, j'aime beaucoup faire ça. Mais après, le problème, c'est de refaire ça en live. C'est toujours un petit peu compliqué, parce que j'avais vécu ça déjà avec Nasser. On avait fait des featuring avec Jesse Chaton, qui est un artiste, voilà. Et c'est vrai que les morceaux étaient cool, mais du coup on s'est retrouvé un peu dans l'impasse parce qu'on pouvait pas les jouer quand il était pas là. Donc c'est toujours un petit peu chiant de devoir faire des morceaux avec des gens que tu pourras pas jouer sur scène, quoi. Donc j'essaie de. Puis je pense que ça sert à rien, que j'ai pas trop envie non plus de m'éparpiller à faire des albums avec plein de featuring et tout ça. Comme je disais, j'ai envie de rester quand même sur une musique instrumentale.
Et pour ce morceau-là, justement, avec Prudence, alors est-ce que c'est un son que tu t'interdis de jouer en live parce que justement elle est pas là ou
Non, je le joue pas. Alors je vais le jouer probablement. Ouais, je peux faire des choses comme ça. D'accord. Je vais le jouer probablement sur 2-3 concerts un peu exceptionnels, peut-être quand elle sera là. Mais voilà, je peux pas demander à Olivia de venir sur la tournée tout le temps pour chanter un titre, tu vois, c'est pas possible.
Ok. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Sur le. Bon, ce soir au Cérolux, tu vas faire que l'album Teenager ou il y a des morceaux un peu plus connus? Enfin.
Voilà. Non, je joue un peu tout quand même. Ouais, je joue. Je sais même pas c'est quoi la proportion. Il y a plus de Teenagers forcément parce que je défends cet album-là sur la tournée. Ouais. Mais je joue aussi des morceaux du premier et du deuxième album. Ouais.
Et c'est quelque chose que tu cales entre guillemets d'un concert à l'autre, toujours le même set où tu viens adapter parce que je sais pas, tu as une sensibilité qui a une ville qui adore ce truc-là.
Non, je change un peu de temps en temps souvent selon les horaires où je joue. Alors c'est vrai que là on est en pleine tournée des clubs, des salles de concert comme ici, donc on joue souvent à la même heure, je suis en tête d'affiche, donc c'est vrai que là, une fois que le live il commence à être bien calé, alors surtout le début de tournée, je change tout le temps parce que je suis pas satisfait de tel truc, ah ouais, non, ce morceau là faut que je le joue après, non, celui-là faut pas que je joue, faut que je joue celui-là à la place, donc ça change beaucoup. Puis une fois qu'on commence à être rodé, on s'aperçoit que de jouer ce morceau là à tel moment, c'est ce qu'il y a de mieux, donc ça sert à rien non plus de changer tout le temps. Ouais, voilà. Après, c'est plus s'adapter sur les longueurs en fonction du public, les longueurs, les trucs, machin. Mais voilà, là, je sais que je peux jouer. C'est pareil sur un festival, par exemple, on peut jouer la plupart du temps qu'une heure. Là, je peux me permettre longtemps, donc c'est quand même plus cool. Je peux me permettre justement de jouer des anciens morceaux, tout ça. Donc c'est vrai que j'aime bien faire ces concerts-là dans les salles parce qu'on a, c'est là où on a le plus de liberté, en tout cas.
C'est vrai que le public, il vient écouter tout French 79. Vrai qu'il y a aussi ce petit truc de se dire, voilà, le son qui m'a accroché à la sortie du premier album ou même voilà,
c'est ça. Bien sûr, après, en une heure et demie, je peux pas non plus satisfaire tout le monde.
C'est sûr.
Après, quand ça a toujours des... Ah, t'as pas joué celui-là. Bon, je peux pas tout jouer non plus, donc... Mais déjà, une heure et demie, c'est pas mal.
Ouais, je pense que, en plus, au vu de ta configuration, l'énergie que tu mets dedans, je pense que tu dois être bien rincé à la fin de ton concert, ouais. Bah, du coup, d'autres collaborations, notamment avec Epica Tech, avec Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, c'est une personne qui revient souvent alors, et qui a en plus une place importante dans Teenager, évidemment. Et avant vraiment d'aborder justement le sujet de Teenager, tournée aux USA, j'ai vu, du coup.
Ouais.
On se posait la question avec Simou, justement, est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans la scène américaine, dans le public, dans les salles, dans la manière de, je sais pas, de jouer, ou le public, la manière dont il reçoit French 79.
En tout cas, ils sont quand même vraiment cool. Hein. Le public américain est vraiment cool, et puis ils sont très curieux aussi. Et puis je pense qu'ils aiment beaucoup la musique électronique française. Hein. Ça, c'est pas grâce à moi. Hein. On connaît tous grâce à qui cette musique-là, elle est devenue complètement internationale. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que tu les sens... ultra intéressé et c'est vrai que c'est grâce à la French Touch on sait dans n'importe quel pays du monde où si tu vois marqué musique électronique française ça devient intéressant quoi, au même titre que si tu vois du reggae jamaïcain ou du trip hop d'Angleterre c'est sûr que ça match. Si tout d'un coup tu vois un groupe de reggae italien, tu vas dire ah bon. Et en même temps, ça peut être bien. Hein, c'est
Rap espagnol.
En tout cas, les États-Unis sont maintenant conscients et ils sont très friands de musique électronique parce que je pense qu'on a aussi effectivement cette fameuse touch là qui est quand même assez particulière, le côté un petit peu classe de la musique électronique, le côté harmonique, tout ça qui est c'est pas la minimal allemande ou alors les Anglais, ils ont toujours ils ont 15 ans d'avance sur nous. Nous on a ce côté un peu classe de la musique et, électronique. Donc je pense que les Américains, ils sont très friands de ça parce qu'ils savent pas le faire ça. Et du coup, ils sont quand même très bon public, ouais.
Ouais, c'est ce mélange, c'est l'art et puis pour les artistes de la French Touch, un peu c'est l'art de l'artiste un peu, visuels.
C'est ça, les visuels, le côté un peu, puis aussi les mélodies, les harmonies.
L'approche de la musique en fait, ouais. Ou de l'électro quoi.
C'est ça, après chaque pays a sa particularité, mais en tout cas en France je pense qu'on est bon là-dedans.
Et est-ce que tu as fait des lieux atypiques aux USA? Enfin, moi je sais pas, je me rends pas compte comment sont les salles de concert, s'il y a vraiment une différence, mais j'imagine un truc un peu démesuré.
Après les salles aux États-Unis, surtout dans les grandes villes, elles sont super parce que c'est souvent des anciens cinémas, notamment sur toute la côte ouest, à San Francisco, Los Angeles, Portland, Seattle, tout ça, c'est des anciens cinémas comme il y avait à l'époque dans Broadway, tout ça, et c'est super beau parce que c'est que des mini-théâtres, un peu comme l'Olympia, je sais pas si vous êtes déjà allé à l'Olympia, toutes les salles sont comme ça, quoi, donc elles sont vraiment belles, quoi. En plus, elles sont assez vieilles, quoi, c'est plutôt des salles des années 50, 60, voire 40, tout ça. Donc puis elles ont été bien conservées et les acoustiques sont bonnes. Donc c'est franchement, les salles, elles sont super belles.
C'est une grosse capacité.
Ça dépend des villes, mais c'est là où j'ai joué, c'était entre 500 et 2000, voilà à peu près quoi.
Ouais, donc on est comme sur une salle ici Stereolux.
Ouais, voilà.
On peut parler de. Parce que tu as fait pas mal de live pour un cercle. Il y a eu Arte Séquence. TV avec Passenger et Séquence avec C'est Culture Box, je crois. Ouais. Donc c'est des lives où tu es tout seul, tu n'as pas de public. comment tu vois le. Alors nous, quand on le regarde en vidéo, c'est magnifique, quoi. C'est des lieux incroyables. Après, en tant qu'artiste, tu es tout seul.
Cercle, ça s'apparente plus à un clip qu'autre chose, en fait. Hein. C'est-à-dire que effectivement, après c'est le public, c'est le paysage, donc c'est quand même vraiment cool, de faire ça parce que c'est inspirant et puis c'est beau et puis donc voilà, ça c'était quand même une très bonne expérience. Après les deux autres c'était un peu différent. Le Arte Passengers à Nice, à l'Observatoire, le lieu était incroyable, donc c'est vrai que c'est pareil, c'est tout de suite dans une structure et tout, donc c'était
ça te met dans une émotion
particulière, quand même. C'était bien. Après il faut quand même bien se dire que quand tu vois ça, je veux pas tout démystifier, mais c'est vrai que tu joues devant 25 techniciens qui ont des caméras devant toi. Okay. C'est pas non plus.
T'as un public quand même.
Ouais, t'as un public, mais qui est derrière une caméra. Parce que voilà, donc c'est vrai que c'est un peu particulier.
Ouais, c'est plus un clip vidéo.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont là. On a l'impression que je suis tout seul dans l'endroit. Mais bon, il y a quand même des gens qui filment et tout ça. Et des drones qui passent. Voilà. Ça, c'était rigolo parce que c'était pendant le Covid. Alors, je sais plus. Très bien, c'était je pense deuxième ou entre les deux confinements, ouais. Enfin voilà un truc comme
le
ça.
Le port du masque était encore obligatoire.
Ouais, ça devait être un truc dans le genre. Donc on n'avait pas le choix de toute façon à cette époque-là, on pouvait faire que ça, donc ouais. Là c'était cool.
Ah c'est bien, ça met un petit truc aussi un peu justement qui te sort de ça.
Ah bah ouais, ouais, voilà, non, puis après c'est là, effectivement le résultat il est quand même super chouette et tout. Donc c'est sûr que c'est plutôt cool de faire ça, mais bon je vous avoue que je préfère jouer devant des gens quand même. C'est quand même mieux.
Je te propose de parler du coup de Teenager,
ouais.
Du coup sorti mai 2023. Bon, on va pas te reposer 10 000 fois les questions. Comme je te disais, on a vu pas mal d'interviews, etc. Donc on a compris en tout cas l'idée de cet album, ce que tu as voulu transmettre, c'est-à-dire les moments de l'adolescence autour des émotions. C'est vrai que moi j'ai découvert cet album-là aussi en préparant l'émission. Et il y a vraiment quelque chose d'assez marquant, c'est vrai que... Ça ressemble vraiment à des tranches de vie, c'est-à-dire que j'écoutais une musique et je m'imaginais dans une situation sans forcément que j'ai encore l'explication de la manière dont t'es voulu le tourner, pas forcément sur l'adolescence, mais en tout cas sur un moment de vie, donc je trouve qu'en tout cas là-dessus, voilà, c'est mon petit retour direct et franc, donc voilà, pour moi ça c'est réussi, et surtout, bah évidemment, toute la phase de construction et de préparation, est-ce que tu peux nous en parler rapidement, surtout avec la partie évidemment avec Jean-Michel Jarre? Qui à ce moment-là te met à disposition son studio et ses machines, donc son outil de travail, avec beaucoup de gentillesse, j'ai cru comprendre, et beaucoup de confiance, et puis bien sûr Miravas. Voilà.
Miraval. Non, bien sûr, je vais t'expliquer tout ça. En gros, j'ai composé l'album chez moi à Marseille, ou même des fois sur mon petit bateau, un peu à droite à gauche, en faisant de la tournée, tout ça. Donc ça, c'est plus la phase composition. Et ensuite, une fois que tous les morceaux sont un peu pas encore structurés, pas encore enregistrés, mais on va dire composés. Effectivement, j'ai rencontré Jean-Michel Jarre il y a un petit moment. Il était venu à plusieurs de mes concerts et tout. Et j'ai eu cette idée-là de lui demander les clés de son studio. Chose qui bizarrement n'avait quasiment jamais été faite par d'autres artistes. Il m'a dit le seul qui était venu c'était Damon Albarn de Blur. C'était le deuxième à venir enregistrer ici. Et c'est vrai qu'il m'a donné les clés. Il m'a dit Simon, tu passes le temps que tu veux, tout ça dans cet endroit assez incroyable. Alors après évidemment toutes les émotions des synthés, des machins, des trucs que tu verras plus jamais ailleurs, décoré par Serge Gainsbourg, enfin voilà toute une espèce de, c'est il y a une, ouais voilà, culturellement très très chargé et puis très profond quand même, donc ça c'était quand même vraiment cool. Donc j'ai passé quelques jours là-bas, c'était vraiment hallucinant. Puis alors, ce qui était rigolo, c'est que le studio était c'était de la moquette noire avec des, il y avait plein de touches rouges faites par Gainsbourg justement, donc très ultra vintage, avec des miroirs et tout, enfin c'était vraiment dans une espèce d'ambiance, tout ça dans un espèce de moitié de château, enfin voilà, c'est vrai que l'ambiance est quand même assez folle. Donc ça c'était pour la partie enregistrement où j'ai enregistré tous les...
Il était un peu comme ça derrière toi.
Non, pas du tout. Alors évidemment j'ai rien à lui apprendre, donc...
Pas dans ce sens là, mais plutôt curieux aussi, parce que s'il vient à tes concerts c'est qu'il apprécie aussi.
Non mais je pense qu'après justement, je pense que là dessus il est bien conscient que... T'imagines bien que si t'es en train d'enregistrer un synthé que t'as Jean-Michel Jarre derrière toi, bon je sais pas si tu vas être très serein quoi, voilà. Et bon, évidemment, on en était bien con. Enfin, ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui te regarde, tout ça. Donc, je pense qu'au contraire, il m'a dit non, mais je préfère te laisser, tu fais bien ce que tu veux. Voilà. Donc, c'était mieux comme ça, en tout cas. Et donc, ça, c'était plus la phase enregistrement. Et ensuite, tout ce qui est mixage et puis finition, j'ai fait ça à Miraval. Dans les studios, dans le, voilà, lieu incroyable dans le sud de la France. Et lui, au contraire, studio tout blanc, ouais. Immaculé, voilà, très futuriste, en même temps avec du vieux matériel quand même et tout ça. Puis assez magique aussi, parce que autant, tu vois, j'ai enregistré des synthés sur lesquels il y a McCartney et Balavoine qui avaient joué. Là, ensuite, j'ai mixé l'album sur la même console que Pink Floyd, que les Cure et tout. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une espèce d'âme, même si on ne l'entend pas, la différence. Il y a quand même un truc, quoi. Bon, voilà. Après, je me souviens, c'était Daft Punk qui disait ça quand il disait On leur demandait mais pourquoi tu prends tel micro, il y a personne qui entend la différence, et eux ils avaient dit bah ouais mais nous on l'entend la différence, c'est le principal. Et là c'est pareil quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement d'avoir eu la même réverb que The Wall de Pink Floyd, ça change pas radicalement le truc, mais moi je le sais, et donc du coup je pense que après ça rentre un peu dans l'âme, dans l'histoire de l'album. Et donc voilà, c'était aussi un moment un peu magique de finir l'album dans cet endroit-là qui est hallucinant.
Ouais, bah c'est vrai qu'il y a eu du beau monde. Il y a eu du très beau monde à passer, hein, à Miraval, comme tu disais. Bah voilà, on a vu AC/DC, Pink Floyd, Cranberries. Ouais. Enfin bon, je pense que la liste est longue. Et puis complètement rénové en 2022, je crois savoir. Donc voilà, avec un petit coup de pouce d'un Américain passionné. Donc non, mais c'est chouette en tout cas. Et ouais, superbe, on a vu quelques photos, en tout cas ton passage là-bas, magnifique. On voulait aborder la partie évidemment identité visuelle très forte avec Cowboys. Ouais. Simou, je te laisse un petit peu en parler.
Ouais, donc Cowboys, vous connaissez depuis longtemps, c'est un peu copain d'adolescence, pote d'enfance. Donc ça, c'est cool de garder cette relation au bout du troisième album.
C'est pas toujours simple de bosser avec des potes, mais.
Ouais. C'est vrai que c'est pas facile, faut bien doser le curseur. Et du coup, voilà le côté visuel. Du coup, bah moi, je vais parler un petit peu bateau parce que je fais de la voile. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, je suis pas mal à course au large et je suis tombé sur des images d'un certain skipper et je tombe sur le spi, le visuel du spi, et je fais mais tain, c'est bizarre, le mec il a copié le visuel de French 79 quoi. Et voilà, bah du coup je me suis renseigné et puis du coup t'as fait un documentaire avec un skipper professionnel qui s'appelle Achille Nebou de Lorient. Est-ce que tu peux du coup nous en parler, voilà, de la rencontre et puis bah du visuel, on voit que c'est hyper important finalement pour un artiste.
Bah ouais, pour un artiste et puis pour lui aussi, ça c'était quand même. Alors en fait, la rencontre, elle s'est faite, je sais plus quand, mais c'était à Dijon, je crois qu'on lui avait offert. Bon, il aimait bien ma musique et tout machin, mais et c'est pendant, je faisais une interview. C'était, je crois que c'était une interview à moitié dans le public où elle était diffusée dans la salle, quoi. Et à ce moment-là, je sais plus sur quelle question on me pose, mais à ce moment-là, j'habitais sur mon bateau. Et du coup je dis ça dans l'interview et lui il a un peu tilté, il a fait ok, je savais pas, il fait de la voile, trop bien. Et du coup il m'a envoyé un message sur Instagram en me disant salut, je m'appelle Achille, je fais de la course au large. Et bah écoute, si tu veux, le jour où tu passes à Lorient, viens, je te montre mon bateau, moi j'adore ce que tu fais, tout ça machin. Et puis donc j'ai répondu tout de suite, ah bah ouais, avec plaisir, si un jour je passe à Lorient et tout. Et ensuite il y a eu rapidement le confinement après ça. Donc entre les deux justement, c'était l'occasion parce que je pouvais pas faire de concert et tout ça. Donc il m'a invité, je suis allé le voir et là on s'est rencontrés, puis on s'est super bien entendu tout de suite et puis on a navigué ensemble et on a navigué ensemble. Il m'a appris à naviguer, à faire de la course au large, hein. Je suis pas du tout un coureur comme lui et tout, mais voilà, de naviguer sur des, d'abord en Figaro puis en classe 40, donc des beaux bateaux quand même qui vont bien. Donc on a fait ça et puis ensuite lui il avait quand même bien cette petite touche visuelle jolie et tout ça, et c'est vrai qu'il a eu raison. À l'époque il était en Figaro et il m'a dit ouais bon écoute, moi j'ai mes sponsors mais au final d'avoir toujours les mêmes SPI marqués Crédit Mutuel, Groupama, Caisse d'Épargne, Banque Populaire ou je sais pas quoi, Sodebo et tout, il m'a dit en fait les bateaux ils se ressemblent. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas un seul qui est joli, quoi. Il n'y a pas un seul, un spi avec rien marqué. Tout le monde dit c'est quoi ce truc, il est beau ton spi et tout. Donc on a décidé de faire ça ensemble. C'était ma petite contribution, c'était juste de faire le flocage du truc. Il n'y a pas eu d'histoire d'argent et tout ça. C'est juste qu'après, quand il faisait des vidéos, moi je lui filais de la musique et tout ça. Donc voilà. Et puis finalement ça a plutôt bien fonctionné parce que c'est vrai que quand tu voyais les photos sur les magazines et dans les départs, bah finalement le spi il était plus joli que les autres, quoi, parce qu'il n'y avait pas une écriture de truc marqué dessus. Donc du coup c'est vrai qu'on voyait que lui, et puis ça marchait aussi pour lui parce que du coup quand tu fais du Figaro, bon bah je sais pas combien, ils sont 40 bateaux, un truc comme ça. Et bah finalement lui, il y avait plein de gens qui venaient le voir en disant alors raconte ton sponsor, c'est pas vraiment un sponsor, c'est un musicien, mais comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça interpelle et ça suffit pour faire plus de pub que. Voilà, donc c'était un truc qui a bien fonctionné. Donc voilà, après on a renavigué plusieurs fois ensemble, j'ai convoyé son bateau, on a fait un petit documentaire pareil entre les deux.
Solitaire.
Ouais, voilà, c'était voilà.
Le lien entre
moi qui suis seul sur scène, lui qui est seul sur son bateau, les trucs. Et en même temps, je suis seul sur scène, mais dans mon équipe, on est 10 dans le bus. En même temps, lui, c'est pareil quand t'es seul sur un bateau, mais en même temps, il y a une équipe derrière qui travaille avec toi. Donc on a fait un petit documentaire là-dessus. Qui souligne un peu les trucs qu'on peut avoir en commun entre un marin et un musicien. Donc c'était assez rigolo.
Ok, sympa. Et du coup là, pour Teenager, j'ai vu que tu avais sorti un clip, t'es parti au Panama, ouais. pour une série de clips ou au moins un clip, là j'ai vu ça,
ouais,
il est sorti il y a 15 jours ou 3 semaines.
Ouais, on a fait 5.
Et donc ça c'est sympa, moi ça m'a fait penser un petit peu à Tilacine.
Ouais.
Donc artiste angevin, tu connais hein, ouais, dans le milieu. Hein. bah voilà, lui qui aime bien faire ses albums avec des. Voilà, il avait fait le Transsibérien, il est parti, je crois, aussi, pas en Antarctique, mais par là-haut. Est-ce que de mélanger un peu la musique comme ça, il y a Molécule aussi,
ouais,
qui est parti avec Molécule.
Il est parti effectivement sur le bateau de pêche, et c'est une des questions qu'on se posait, parce que Molécule, il est dans ce qu'on va appeler la musique concrète.
Ouais.
Moi, c'était une des questions, c'est est-ce que c'est pas une des étapes que tu veux intégrer aussi, peut-être dans tes...
Non, alors le fait de partir voyager, c'est plus pour m'inspirer, c'est-à-dire que je veux... Enfin, c'est pas que... Il y a des Molécules le fait très bien. Il y a des gens qui le font bien. Moi, c'est vraiment plus pour m'inspirer. J'ai besoin de, voilà, d'être des fois un peu tout seul dans des endroits qui changent de chez moi. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le studio, pour pouvoir venir s'enfermer, j'ai besoin d'aller voir des choses un peu ailleurs et tout. Et après, je sais pas pourquoi, quand t'es au Panama, dans plein milieu de la jungle, finalement, il y a cette suite d'accords qui arrive. J'arrive pas à faire la relation, mais elle se fait en tout cas. Donc voilà, avec les Cowboys toujours, on a voulu un peu documenter tout ce voyage. Ouais, et donc on a fait une série de clips là-bas, ouais.
Ouais, ça fait des belles images. C'est vrai que j'ai vu les commentaires, les gens ils aiment bien.
Ça fait un petit peu rêver, de toute façon. Voilà. C'est sûr que ça fait un peu plus rêver que d'être dans son salon avec son ordinateur, quoi.
T'as pas encore fait d'album live? Est-ce que, alors je sais pas, est-ce que actuellement les artistes ils sortent encore des albums live? Est-ce que toi t'as une envie d'album live? Enfin, c'est peut-être pas plus.
Ouais, c'est pas quelque chose qui m'excite beaucoup. Et encore plus quand je suis en plein milieu de la tournée, c'est-à-dire que bon, ça serait un peu bête de...
Un zénith.
Ouais, voilà, en tout cas, je les ai, les lives, ils sont prêts, en vidéo, en tout ça, mais c'est vrai que bah, les réseaux sociaux, les stories, les choses comme ça, ça a vachement changé cette donne-là, puisque si tu veux voir quelqu'un, il suffit d'aller sur Instagram, tu vas sur son truc, et finalement, t'envoies plein des images de live. Donc, après, un live super bien enregistré, ça n'a rien à voir, c'est sûr, mais pour l'instant, vu que je suis en pleine tournée, j'y pense pas trop. Et puis en fait, j'adore composer, donc j'ai plus envie de sortir des nouveaux morceaux que de sortir un live comme ça. Après, pourquoi pas, hein, je dis pas non, mais voilà.
Je dois savoir que t'as en plus une paire de morceaux sous le pied encore.
Bon, comme tout le monde, ça, comme tout.
En mode production.
Ouais, comme tout artiste. Après, on est tout le temps en train d'un peu composer, de faire des choses comme ça. Après, je fais pas que ça aussi. Je compose pour. Là, je fais des spectacles à Nancy, c'est ma ville d'origine. Des trucs sur des mappings. Donc, à chaque fois, ça représente 40 minutes de musique. C'est-à-dire que la longueur d'un album. Là, je viens de finir une musique de film. Le premier film de Reda Kateb qui va sortir, je sais pas quand, mais je viens de faire ça. Donc, voilà, j'ai plein d'autres projets un peu parallèles à tout ça, quoi.
Alors du coup, en parlant de projet parallèle, tu avais le projet Sofa aussi avec le pianiste Benjamin Faugloire,
ouais,
c'est ça,
c'est ça.
Donc il y avait eu quoi, un EP de sortie. Est-ce qu'il y a un album à venir ou d'autres titres?
Alors c'était bon, c'est un EP, mais c'était quand même trois morceaux de 10 minutes. C'était quand même c'était un peu hors format, quoi. Voilà, il y avait pas de, c'était ce qu'on voulait faire. Moi, je voulais pas que ce soit bah c'était en fait c'est plus un projet qui s'apparente plus à du jazz, donc je voulais surtout pas essayer de faire des 3 minutes et tout, ça aurait été ridicule. Et puis voilà, le but du jeu, c'est d'être un peu hors format. Et ça fait partie des choses, comme avec Fred Nefché, avec Lou Reed, voilà, des espèces de trucs un peu parallèles et tout ça. C'est bien aussi de faire des choses un peu différentes, de pas s'encrouter dans ce qu'on sait faire. Je produis aussi d'autres artistes, donc ça prend aussi beaucoup de temps. Donc ça c'est la partie studio, la partie composition, les musiques à l'image, les musiques pour les spectacles, les musiques de films, mon projet jazz. Bon voilà, ça fait quand même déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Plus la tournée, voilà, c'est ça. Plus la tournée qui prend quand même beaucoup de temps et tout ça, donc non, c'est déjà pas mal.
Ouais, donc t'as fait aussi NTO, des morceaux, un morceau sur l'album de NTO qui était remixé par le label Hungry Music, toute la clique.
Et c'est vrai que Hungry Music, notamment avec Oracles, il y a Oracles Orchestra. Et donc, voilà, encore une fois, tu sais, nous, on projette toujours c'est quoi la prochaine étape. Et c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te brancherait de te dire j'ai un orchestre derrière moi pour m'accompagner. Toi qui es quand même plutôt du conservatoire.
Ouais. Alors ça va être fait, c'est-à-dire que. Mais c'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que je serai pas sur scène, c'est juste un orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Paris, qui va reprendre des morceaux à moi. Parce que, après, voilà, j'ai fait le conservatoire et c'est vrai que j'ai. Je sais ce que c'est que d'être un chef d'orchestre. Je sais que je ne suis pas chef d'orchestre. Il est hors de question que je me considère comme un chef d'orchestre. Donc je veux pas diriger un orchestre. Je me sentirais mal à l'aise là-dedans. Donc je trouve que ce format-là de travailler avec l'orchestre sur l'adaptation des morceaux et tout ça, oui. Après d'être sur scène et de partager ce moment-là, je préfère être dans la salle et d'écouter ça. Voilà, c'est comme Mozart, il jouait pas ses propres morceaux. Je pense que je trouve que ça a plus de sens pour moi de faire interpréter mes morceaux par un orchestre que de jouer avec un orchestre. Donc c'est en cours.
Ok, donc ça, et t'as d'autres projets à venir ou non
ça, c'est... Bah ça, c'est déjà pas mal quand même. Ça.
Toujours plus,
toujours plus, ouais. Non. Là, il y a quand même la tournée qui continue. Ça va être probablement jusqu'en 2025.
Tournée française ou tu vas avoir des dates?
Non, on va aller à l'étranger aussi, dans les pays où je suis jamais allé jouer, en Inde, en Australie. Donc ça va être cool.
Aussi à Oslo.
Oslo, Copenhague, Stockholm. On va repartir un petit peu aux États-Unis. Enfin voilà, non, il y a quand même.
Les artistes qui tournaient le plus à l'étranger.
Ouais, voilà, il y a beaucoup de pays étrangers, ça c'est quand même chouette. Après, on essaie de regrouper un peu tout ça quand même pour pas faire trop de déplacements. C'est déjà pas mal tous ces projets.
J'ai vu que tu allais passer aux Escales là, en juillet, donc à Saint-Nazaire, là, à une heure de Nantes. Donc.
Proposer du coup.
Bah ouais, je proposais peut-être de faire un petit tour en bateau avant ton set. Non, j'ai mon bateau à Nantes, mais à voir. Après, est-ce que du coup, on parlait d'avoir des idées un peu de titres sur le bateau? Est-ce que d'enregistrer un album, mais de faire un peu comme Cercle tout à l'heure, de faire un petit concert sur un bateau, ça peut être. Alors, c'est peut-être compliqué à s'organiser.
Après, mais... c'est pareil, ces concerts-là, c'est plus des concerts filmés, en fait, quoi. Parce que ça dépend du bateau. Hein. Si c'est sur un paquebot, évidemment, tu peux avoir le public. mais sur un voilier. Sur un voilier, c'est plus intimiste et tout. Donc, ça sera plus un truc un peu filmé. Donc. Ça c'est bien, mais après en tout cas moi je sais que je compose beaucoup sur mon bateau aussi, tu vois, j'ai toujours mes petits synthés, un truc comme ça, et des fois chez moi à Marseille je veux ouais. Et je me cale au mouillage et je compose un peu. C'est vrai que c'est quand même cool quoi de ça rejoint ce que je dis, c'est inspirant. Après tu peux pas finir un morceau sur un bateau parce qu'il faut quand même du gros son tout ça, bon bref, ouais, mais l'inspiration, écrire des choses comme ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc en tout cas je dis pas non à tour de bateau. Après évidemment là ça sera en été, le planning risque d'être un petit peu chargé. Mais si je suis là, avec grand plaisir.
C'était pour la blague, mais ouais. c'est lancé quand même. Bah, en tout cas, merci pour cette interview. Hein, donc voilà, moi je serai au concert ce soir. Donc j'ai hâte de. Je t'avais loupé, je crois que c'est l'année dernière, t'étais passé à Nantes et puis c'est complet rapidement. Hein.
C'est mieux pour toi. Mais...
Donc c'est cool. Je crois que t'es à Angers demain soir.
Ouais.
Au Shabada, voilà. Dernière question, est-ce que tu as un artiste un peu un artiste marseillais à nous recommander ou avec qui t'aimerais collaborer pour terminer.
Je vous recommande Sin Charles qui joue juste avant moi, hein, tout simplement. Je pense que vous allez peut-être aller le voir un peu aussi. Non, voilà, ouais, c'est en tout cas, c'est j'aime beaucoup Charles et je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Il y a un super son.
Ton label, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Il tourne un peu autour de ce label-là, donc voilà, je le conseille à tout le monde.
Ça marche, merci. Bon, on remercie aussi le label et puis
merci
la radio
label, aussi, hein, merci à la radio et puis merci à toi évidemment Simon pour le temps que tu nous as accordé.
Merci et
surtout
à vous.
Pour ce soir, voilà. On a hâte de voir
très
ça.
Bien. Merci à vous.
Merci, salut.
Les tripatouilleurs.
Malheureusement aujourd'hui, c'est bien fini.
Ok, j'y vais.
À dans deux semaines.
Et maintenant, au revoir.